Bonjour à tous et bienvenue à l'Université de l'Épargne. Je peux confondre. Bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de sujets internationaux. Alors, déjà, je voulais me poser la question.
On est le 8 octobre.
Alors oui, tout à fait, on est le 8 octobre, et je suis en compagnie de Charles Gave. Voilà, on met bien toutes les infos au début. Au début, je voulais parler un peu de ce qui se passait avec Israël, le Liban, l'Iran. C'est quand même un gros sujet. Et puis, en faisant les sujets de cette émission, je me suis dit, on n'aura jamais le temps de le placer. Donc, soit cette émission dure une demi-heure, on parlera un peu d'Israël après, soit effectivement, on n'aura pas le temps et ce sera plutôt, je pense, pour la semaine prochaine. D'abord, donc, je voudrais parler de la réunion à venir des BRICS. On appelle ça maintenant même les BRICS Plus. Ce sera une réunion donc à Kazan, en Russie, du 22 au 24 octobre prochain. Donc, la réunion inclura l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, encore d'autres nations, et puis évidemment les BRICS originels.
Je crois aussi, oui, c'est ça, les BRICS originels, le Brésil, l'Afrique du Sud.
Oui, voilà, Brésil, Afrique du Sud, Russie, Inde, Chine, voilà, c'est ça les BRICS. Sachant que les BRICS représentent donc désormais 45% de la population mondiale et un tiers du PIB mondial, une sorte de contre-pouvoir quand même aux États-Unis qui est un peu en gain de puissance. Et alors, il y aura plusieurs enjeux dans cette réunion. Déjà, un des enjeux, c'est la bien nommée dédollarisation dont vous parlez depuis pas mal de temps maintenant.
Quelques années, oui.
Et alors, est-ce que vous pensez que ce phénomène ne va faire que s'intensifier?
C'est une question intéressante là. Il faut décrire un petit peu le système qu'on avait avant, de façon à comprendre ce qui va changer. Comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, mais je crois que c'est nécessaire de le réexpliquer à nouveau. C'est-à-dire que le système qu'on avait avant, c'était un système complètement centralisé, qui était centralisé sur le dollar. C'est-à-dire, c'était un petit peu comme un gros ordinateur des années 70. Vous aviez un ordinateur, on appelait ça un mainframe à l'époque, un gros ordinateur. Puis, dans les entreprises, tout le monde avait un écran qui envoyait toutes les informations, qui allait chercher les informations sur l'écran central. Et dans les grandes boîtes, les grandes banques, etc., c'était le département informatique qui, dans le fond, contrôlait les informations de tout le monde, comme ça. Ils étaient aux commandes. Il n'y avait rien de plus important que les gars d'IBM. Si vous parlez CCF dans les années 70, IBM, c'était la vache sacrée, c'était par qui tout passait. Donc ça, on a vu un système comme ça. C'est-à-dire que c'était un système où tout était en dollars. Si vous vouliez faire du commerce entre, je sais pas, l'Indonésie et la Malaisie qui sont à côté, elle passait par le dollar, donc par ce système central. Les règlements se faisaient en dollars. Et ça voulait dire que, ben, ceux qui contrôlaient le système par le système SWIFT, des paiements, plus le dollar, plus le département d'informatique qui contrôlait le tout, ben, ils contrôlaient le commerce entre l'Indonésie et la Malaisie. En tout cas, ils le contrôlaient pas, mais ils savaient très bien ce que les autres faisaient.
Oui,
donc c'était un élément de pouvoir extraordinaire pour les États-Unis. Et au début des années 2000, après les attentats de Wall Street, là, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont dit, quiconque utilise des dollars en dehors des États-Unis, même si vous êtes de la Malaisie et l'Indonésie, vous travaillez en dollars l'un avec l'autre, comme vous utilisez le dollar, vous êtes passible du droit américain.
Ouais.
C'est-à-dire que les États-Unis sont arrogés le droit de dire vous pouvez faire du commerce avec celui-ci, mais pas avec celui-là, etc. Donc à l'époque, j'avais écrit un papier en disant, bon, mais c'est la fin du dollar, quoi, ça prendra du temps, mais ça peut pas ne pas arriver. Donc c'est en train d'arriver. Et la question, c'est, les gens me disent, j'ai deux questions qui arrivent immédiatement, c'est qu'est-ce qui va remplacer le dollar et qui va contrôler le système? Et ben, la réponse à ces questions, c'est ni l'un ni l'autre, mon général. Rien ne va remplacer le dollar, mais on n'aura plus besoin de dollar, puisque vous ferez, et tout sera fait par des systèmes complètement décentralisés de commerce bilatéral. C'est-à-dire que la banque centrale indonésienne aura un compte commun avec la banque centrale malaisienne, et puis ce sera comme une chambre de compensation, puis on verra à la fin de la journée laquelle de l'argent à l'autre, etc. Et alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a monté tous ces systèmes bilatéraux, arrive immédiatement la question, oui, d'accord, mais on compense avec quoi? Dans le temps, on compensait avec le dollar.
Ouais.
Et là, ils vont dire, pourquoi? Alors, on peut compenser soit la banque indonésienne accepte de la monnaie malaisienne qu'elle met en réserve.
Ouais.
Bon. Et puis, la banque indonésienne se dit, dans le fond, je suis pas très bien payé sur le monnaie malaisienne. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des obligations malaisiennes. Donc, ça nécessite à ce moment-là le développement de marchés obligataires dans chacun des pays pour pouvoir vendre du temps aux autres.
Ouais.
Ce qui était autrefois le privilège du dollar. Le seul qui contrôlait le temps, c'était les États-Unis, le dollar. Puis les Malaisiens vont peut-être, ou les Indonésiens vont peut-être se dire, mais dans le fond, j'en ai rien à foutre des obligations indonésiennes. Je vais peut-être leur demander, allez, de l'or. Ou bien, je vais leur demander peut-être, de la monnaie chinoise.
Ouais.
Et puis moi, en même temps, je sais que l'Indonésie a emprunté à la Chine de la monnaie chinoise, donc je pourrais régler aussi avec la monnaie chinoise, ce qui me permettrait, avec mon excédent, d'acheter des produits en Chine.
Ouais, ouais.
Donc vous avez un système à ce moment-là qui devient complètement décentralisé, complètement ouvert, et c'est un système qui est beaucoup moins efficace, beaucoup moins efficient, mais beaucoup moins fragile, et beaucoup moins dépendant des foucades politiques des États-Unis. Et ça veut dire que comme les États-Unis, comme je l'ai déjà dit, contrôlaient le temps long, c'est-à-dire c'était eux qui contrôlaient les taux longs dans le monde entier, c'est-à-dire que quand les taux longs américains montaient, les taux montaient partout, quand les taux longs américains baissaient, les taux baissaient partout, et ça avait rien à voir avec les cycles locaux et tout à voir avec le cycle des États-Unis. Donc ça foutait un merdier dans le système pas croyable, parce que y avait des pays qui étaient obligés de monter leurs taux alors qu'ils étaient en récession, quoi. Et donc ce que ça veut dire, c'est que on n'avait qu'un cycle mondial qui était déterminé par la Banque Centrale Américaine. Maintenant, on va avoir des cycles dans tous les sens. Et ça va devenir rigolo à nouveau d'investir de l'argent internationalement, parce que le but sera d'acheter des actions au moment où l'économie va redémarrer à gauche, et de les vendre à droite au moment où l'économie locale va se péter. Ce sera plus simplement d'essayer de comprendre ce que la Fed va faire la semaine prochaine.
Oui, effectivement, oui.
Donc ça change complètement, par exemple, ça va complètement changer mon métier. Il va falloir que je m'intéresse... Il y avait une banque centrale qui était plus égale que les autres, et tout le monde regardait celle-là, et continue à regarder que celle-là, mais ça n'a plus aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on voit encore une espèce de retard à l'allumage des systèmes d'information qui continuent à attendre avec angoisse que va dire le banquier central des États-Unis. Ce sont deux mois aujourd'hui, je me contrefous. Je me dis que ça n'a plus aucune importance. Donc c'est un bouleversement total, et ça veut dire qu'on n'aura plus de monnaie de réserve.
Ouais.
Il n'y aura plus une monnaie de réserve dominante.
Ouais.
Ça veut dire que toute la monnaie de réserve dominante qui était les États-Unis, plusieurs milliers de milliards de dollars, 5000 milliards de dollars, je crois, en réserve aujourd'hui, dans les banques centrales, ça sert plus à rien. Parce que vous pouvez rien acheter aux États-Unis, ils produisent pas grand-chose.
Ouais.
Enfin, vous pouvez acheter des armes si vous voulez, mais en vrai, elles sont très chères, elles marchent pas si bien que ça. Vous avez peut-être intérêt à acheter aux armes en Russie qui les font à un meilleur marché. Donc, c'est la fin de la domination du dollar, comme voilà.
Et alors, est-ce que...
Vrai problème, ils se réunissent là, c'est pour essayer de déterminer les règles qui vont permettre les compensations.
Ouais, effectivement.
C'est le problème, c'est comment on se met d'accord sur quoi, quoi.
Ouais. Et alors, est-ce qu'ils ont réussi à faire une sorte de contre-système à SWIFT, justement?
À partir du moment où vous avez des systèmes bilatéraux...
Ouais. Vous n'avez pas besoin d'un système centralisé.
Vous pouvez avoir 5 systèmes bilatéraux, la Malaisie avec l'Indonésie, avec la Chine, etc., et qui sont gérés à partir du premier étage de la banque en Malaisie. Quoi. Puis c'est tout, ça, c'est pas très compliqué. Hein.
Donc il ne s'agit pas vraiment de remplacer le système dominé par les Américains, il s'agit de défaire le système.
C'est exactement comme vous êtes passé d'un ordinateur central au PC. Ouais.
Oui.
C'est-à-dire que tout le monde s'est dit... Et je vous signale que IBM, quand les PC sont apparus, il a dit ça n'a aucun intérêt ce truc-là. Et donc ils ont complètement raté la révolution du PC, quoi.
Ouais.
Et puis les Américains sont en train de dire ça marchera pas votre truc.
Ouais. Et évidemment, ce genre de truc, c'est absolument fondamental pour eux, parce que pour ces pays-là, parce que on a vu ce qui s'était passé avec la Russie il y a 2 ans. La Russie a un peu souffert pendant quelques mois des sanctions occidentales. Aujourd'hui, ça va mieux. Justement, en se prémunissant contre des sanctions occidentales avec justement l'importance du système SWIFT, là. À l'avenir, s'il y a une guerre avec
l'Inde ou la Chine. C'est comme les grands systèmes de...
Là, ça leur fera plus rien.
Ça servira aux gens qui veulent continuer à ce que les États-Unis soient au courant de ce qu'ils font, quoi.
Ouais.
Je doute pas que M. Macron fera tout son possible pour que ça continue à passer par SWIFT.
Ouais, ouais.
Et j'espère qu'il est bien payé pour ça, mais ça n'a plus aucun intérêt. C'est un système obsolète, quoi.
Ouais.
C'est mort comme a été le grand ordinateur central, quoi. C'est fini.
Et alors, est-ce qu'il faudrait s'attendre à ce que de plus en plus de pays rejoignent justement les BRICS, peut-être à terme
la quasi-entièreté de la planète ? Les SWIFT, il suffit simplement qu'ils disent, moi, vous savez, mon commerce, il va de plus en plus passer par des accords bilatéraux, quoi.
Ouais.
Ça veut dire aussi qu'à partir du moment où il y a des accords bilatéraux comme ça, on se demande encore une fois quel est l'avantage de l'euro, quoi. Parce que vous pourriez avoir un commerce bilatéral entre la France et l'Italie, on n'a pas besoin de passer par une monnaie commune qui nous entrave tous les deux dans notre développement, quoi.
Donc, ouais, tout à fait.
C'est une victoire très profonde des systèmes décentralisés sur un système centralisé.
Mmh, oui.
Et tout le travail des hommes de Davos, c'était d'essayer de faire monter en puissance leur système centralisé.
Mmh.
Et là, en quelque sorte, l'outil sur lequel ils comptaient pour contrôler tout le monde, boum, il est en train de sauter.
Ouais.
C'est très bien.
Et alors, il y a aussi autre chose qui me taraude, c'est la situation de l'Iran. Alors du coup, on parle un peu indirectement de ce qui se passe avec Israël, parce que l'Iran, donc, est au milieu des BRICS maintenant. Et alors, est-ce qu'il faut s'attendre à un soutien des autres pays des BRICS, justement, à la situation de l'Iran face à ce qui se passe
La vraie question pour l'Iran, si vous voulez, c'est que pour acheter des choses à l'extérieur, ils aient quelque chose à vendre.
Oui.
Alors, 85% de leurs exportations, c'est du pétrole.
Oui.
Bon, très bien. Mais si Israël fait sauter
les ports
pétroliers, il y en a un ou deux, ce qui peut être fait en 5 minutes, ils n'ont plus rien à vendre. Donc à ce moment-là, ils sortent, ils retourneront à l'âge de pierre, quoi.
Mm-hmm.
Et à ce moment-là, je ne sais pas si le régime peut tenir.
Ouais.
Dans le fond, tout le monde se pose la question. Israël va sans doute taper sur l'Iran. On peut le penser, ça n'a pas l'air d'être une grande nouveauté. En tout cas, ils ont dit qu'ils allaient le faire.
Ouais.
La question, c'est est-ce qu'ils vont taper sur les installations portuaires pour empêcher l'Iran d'exporter, en ruinant l'Iran ? Bon, hypothèse numéro 1. Hypothèse numéro 2, est-ce qu'ils vont taper sur les installations nucléaires pour empêcher le... Ou question numéro 3, est-ce qu'ils vont taper sur les deux, quoi ?
Oui. Oui, je pense que c'est assez probable qu'ils fassent un petit peu des deux, ouais.
Voilà. Donc, à ce moment-là, si l'Iran n'a plus rien à vendre, peut-être la Chine lui fera des prêts, j'en sais rien, mais les Chinois sont ainsi faits que ce sont pas des bienfaiteurs de l'humanité. Donc,
c'est pas des Américains. Il y aura pas un parapluie chinois sur l'Iran, quoi.
D'abord, et ensuite, les Chinois diront, bon, ben, on va bien vous vendre des produits pour que vous mouriez pas de faim ou j'en sais rien.
Ouais.
Mais, nous, on prend le contrôle du port, le contrôle de ceci qu'on rebâtira et tout. Et donc, ça sera une très très belle perte de souveraineté pour l'Iran, quoi.
Oui, c'est sûr. Mais c'est sûr, c'est là qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas vraiment de symétrie en fait entre le monde plus occidental de l'OTAN et celui des BRICS où la Chine remplacerait en quelque sorte les États-Unis.
En plus, les Chinois savent très bien qu'avoir une monnaie de réserve, ça veut dire qu'elle sera toujours surévaluée. Et donc à ce moment-là, vous perdez votre base industrielle et que vous vous appauvrissez à terme. La monnaie de réserve, ça a ruiné d'abord l'Angleterre, ensuite les États-Unis.
Mm-hmm.
Et maintenant, ils vont pas du tout brouiller de vrai.
Ils veulent pas remplacer le dollar par du yuan. C'est sûr. Donc voilà un petit peu ce que je voulais évoquer par rapport aux BRICS, parce que c'est vrai que c'est.
Mais c'est des problèmes techniques, c'est pas des problèmes de fond. Tout le monde est d'accord sur ce qu'on vient de dire.
Ouais.
Maintenant, il faut savoir comment on va faire les. Quand j'avais parlé de ça avec un banquier central, justement en Indonésie, il y a longtemps, il m'avait dit oui, mais ce qui est embêtant, c'est que SWIFT, ça marche très bien. On appuie sur un bouton et tout marche et on veut le... Et il dit, là maintenant, il va falloir monter des programmes, monter des systèmes. Donc il faut réinventer la roue, c'est-à-dire remettre en place des routines. Mmh. Et ça prend du temps, quoi.
Ouais, effectivement.
Il faut changer de software, quoi. C'est comme de passer de... Je sais pas... de COBOL à je sais pas quoi. C'était autre chose, à Fortran.
Ouais.
C'était dans ma jeunesse, mais ça n'existe plus, mais... C++, j'en sais rien. Et donc, il faut changer de software. Changer de software, c'est toujours une galère.
Ouais, oui, c'est comme un type qui ferait du codage, qui devrait coder dans une autre langue, quoi.
Voilà,
c'est un peu la même chose. Et donc, ensuite, je voulais évoquer les élections américaines, parce que, mine de rien, on en parle depuis des mois, on en parle depuis au moins l'an dernier, et à chaque fois, je l'évoque en me disant, bon, ça arrivera, mais c'est dans longtemps. Mais là, maintenant, on y arrive. C'est dans 28 jours. Le 5 ou le 6 novembre, je sais plus. Le 6 novembre. Et alors, je voulais donc en parler parce que on y arrive, quoi. Et donc, depuis quelques jours, quelques semaines même, Kamala Harris est plutôt l'underdog. Maintenant, elle a eu un petit quart d'heure de gloire cet été lorsqu'elle a annoncé sa candidature, que Biden était out, elle était plutôt bien placée dans les sondages. Alors, au niveau national, elle est toujours donnée devant Trump, mais bon, ça c'est rien d'affolant. Trump garde quand même un collège électoral déjà très fort. Et puis, aussi, il est souvent sous-estimé par les sondages. J'ai regardé la différence, état par état, entre ce qu'on lui donnait comme score un mois à peu près avant les élections et le score qu'il a eu au final dans ses états. Et il y a souvent une grosse différence. Donc là, je voulais faire un petit tour d'horizon.
Avant que vous commenciez, je voudrais dire quelque chose qui me paraît important. C'est que j'ai dit il y a quelques mois que les instituts de sondage, ils étaient douteux parce qu'ils étaient un peu, quand même, qu'on le veuille ou non, dans les mains de l'État profond. Parce que c'est eux qui les payent, faut pas se tromper. Bon, et donc ma thèse, c'était qu'on allait nous annoncer que Kamala Harris était en tête pour essayer de créer un mouvement d'opinion en sa faveur, et que au fur et à mesure qu'on se rapprocherait de l'élection, on aurait les chiffres de plus en plus vrais parce que les sondages veulent pas se déconsidérer complètement, quoi. Ils veulent bien. Ils disaient il y a trois mois elle était populaire, maintenant elle l'est plus. Donc ça peut arriver. Et donc je disais, ce qui va se passer, si j'ai raison, c'est que on va d'abord avoir Kamala Harris qui va être en tête, et puis ensuite au fur et à mesure qu'on se rapprochera de la date, les vrais sondages commenceront à sortir et on verrait Kamala Harris sera tatinée.
Tout à fait.
Donc j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est en train de se passer.
C'est un peu ce qui se passe. J'avais fait déjà un petit tour d'horizon état par état il y a deux ou trois semaines, et on notait que les chiffres étaient extrêmement serrés. C'est-à-dire qu'à chaque fois il y avait des marges de 0,1-0,2%.
C'était du pipeau, ça.
Voilà. Et là, alors c'est encore très serré dans tous les états, mais on commence à voir des tendances quand même, notamment Arizona, Caroline du Nord et Géorgie, c'est plutôt à la faveur de Trump. Nevada, Wisconsin, Michigan, c'est un peu plus à la faveur de Kamala Harris. La Pennsylvanie serait, selon toute vraisemblance, une égalité parfaite, sauf que c'est un petit peu ce dont je voulais parler, c'est que il y a des différences entre ce qu'on annonce historiquement un mois avant l'échéance et le jour de l'échéance. Et donc, je voulais présenter une carte. Si on prend les sondages trop au sérieux, ce qui va être mon cas dans un but purement hypothétique, la carte électorale ressemble aujourd'hui à peu près à ça.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que, donc on va vous mettre l'image quand même sur le montage, c'est-à-dire que il y a vraiment que la Pennsylvanie où là, pour le coup, c'est une égalité parfaite. Et c'est hyper décisif parce que ça donnerait, donc encore une fois, je prends l'hypothèse, ce qui n'est peut-être probablement même pas ce qui va se passer le soir de l'élection, mais ce qui nous donnerait donc Kamala Harris avec 257 grands électeurs et Trump avec 262. Donc la Pennsylvanie, c'est 19 grands électeurs, c'est hyper important. Et donc, ça va être vraiment l'état, peut-être le seul état clé au final de cette élection. Et ensuite, je voulais faire un petit rappel état par état, parce que par exemple en Arizona, les sondages, moi je regarde les sondages agrégés, parce que si on regarde sondage par sondage, en fait rien ne veut rien dire. Il y a des sondages qui sont commandés par la Fox, qui sont plutôt favorables à Donald Trump, d'autres qui sont commandés par le New York Times, qui sont plutôt favorables à Kamala Harris. Enfin voilà, la culture des sondages aux États-Unis, elle est vraiment très bancale. J'ai du mal à les croire individuellement.
C'est très difficile parce que ça dépend complètement du. Vous savez, aux États-Unis, vous avez trois catégories. Vous avez les républicains qui sont inscrits, les démocrates qui sont inscrits, et vous avez les gars qui sont ni l'un ni l'autre. Qui ne sont pas inscrits.
Tout à fait.
Et donc, si vous voulez faire un sondage favorable à Trump, vous surpondérez dans votre sondage la partie républicaine. Et puis, vous sous-pondérez la partie démocrate. Et à ce moment-là, vous avez un résultat qui montre que Trump est élu, ou le contraire, si c'est un sondage démocrate. C'est pour ça que je suis persuadé qu'on a toute une série de sondages aujourd'hui qui ont, depuis 4-5 mois, depuis l'arrivée de Kamala Harris, favorise Kamala Harris. Mm-hmm. Mais c'est maintenant qu'on va voir la vraie évolution se dessiner, parce que pour les firmes qui s'amuseraient à surpondérer les démocrates pour essayer de faire arriver Kamala Harris, ils risquent de perdre la clientèle pour la fin d'après, quoi, s'ils sont trop préparés de trop. Donc automatiquement, ils vont tous maintenant essayer d'avoir des sondages mathématiquement plus exacts.
Ils vont aplanir la courbe, effectivement. Et par exemple, si on prend, encore une fois, je prends les sondages agrégés. Mm-hmm. Donc en Arizona, on donnerait plus 1,4 point à Trump, sachant qu'en 2020, les mêmes sondages agrégés donnaient un mois à l'avance plus 3,1 à Biden et plus 0,7 à Trump en 2016. Alors, sachant, donc, on repart en 2020, sachant que Biden était donné avec 3 points d'avance à un mois du scrutin, et ben en fait, il a au final obtenu 0,3% de plus que Trump, il a quand même gagné l'État, mais avec 2,8%. Beaucoup de contestations.
La grande question, c'est aussi, il y a eu des tas de choses qui n'étaient pas à fait anormales dans la dernière élection, et je ne crois pas que les Républicains s'attendaient à ce qui s'est passé. Ouais. Donc, il est probable que cette fois-ci, il va y avoir des armées d'avocats qui vont être partout. Et que, par exemple, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé en Californie, c'est le gouverneur de Californie a décidé qu'il interdisait de réclamer une carte d'identité à celui qui allait voter. Donc c'était vraiment je sais même pas si c'est constitutionnel de dire ça d'ailleurs, mais j'en sais rien, mais en tout cas il l'a pris. Donc aujourd'hui en Californie, vous pouvez aller vous appeler Joe Smith, vous allez voter tranquillement, et vous avez passé la frontière la semaine d'avant, quoi. Ouais. Donc c'est quand même un petit peu curieux. Ouais. Et que donc on voit bien que les démocrates sont arrivés à un point de désespoir où dans le fond parce que aux États-Unis, vous pouvez pas louer une voiture, vous pouvez pas prendre un avion si vous n'avez pas une pièce d'identité, hein. Oui. Donc prétendre que les noirs sont
pas prendre de l'alcool avant 21 ans.
On peut pas prétendre que les noirs n'ont pas de pièce d'identité ou qu'ils sauraient pas les présenter. C'est une insulte faite aux noirs. Donc tout ça, c'est quand même assez bizarre. C'est qu'on sent bien une espèce de désespoir. Et je voudrais ajouter quelque chose, c'est quand vous regardez autant les équipes de Trump la première fois étaient médiocres, autant cette fois-ci, il est entouré de personnalités absolument éminentes.
Moi, je suis assez fan de son vice-président, de son.
D'abord, le vice-président est très bien. Ouais. Elon Musk est très bien. Tulsi Gabbard est très bien. C'est une fille qui a été colonel dans l'armée et elle est passée aussi du Parti démocrate. Elle avait été candidate pour être présidentielle américaine la fois d'avant. Vous avez toute une série de gens autour de Trump qui aujourd'hui sont d'une qualité tout à fait, et dont la moitié, sans parler de Kennedy, dont la moitié sont d'anciens démocrates et d'anciens du Parti démocrate d'autrefois, celui que j'avais moi, c'est-à-dire des gens qui s'intéressaient aux petites gens et pas à l'industrie pharmaceutique et à l'industrie de l'armement pour savoir comment ils allaient payer leur retraite, quoi.
Par exemple, Philippe Fabry analyse ça en disant finalement c'est une sorte de retour à un ancien clivage qu'on avait déjà par exemple à la Rome antique entre les populares et les optimates.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment
ce que j'appelle moi les hommes des arbres et les hommes des bateaux.
Oui, voilà, c'est, on peut l'appeler comme on veut, c'est la même chose.
C'est-à-dire d'un côté, et autrefois dans la Rome antique, il y avait les tribuns du peuple qui étaient chargés de représenter les intérêts du peuple auprès des optimates, là, les sénateurs ou les chevaliers, là, et on peut se dire qu'aujourd'hui on a d'un côté les tribuns du peuple qui sont autour de maintenant de Trump, et puis les optimates, parce que Madame Harris n'a pas été élue dans des primaires. Elle a été désignée.
Ouais.
Comme l'avait été Biden. Donc c'est un petit peu curieux de voir que les républicains, ils vont se bagarrer entre eux pour savoir qui va être le candidat, et les démocrates ont dit ne vous inquiétez pas, on va vous en trouver un qui sera convenable, quoi. C'est pas du tout la même chose.
Effectivement. Et donc, si je reprends mon historique, évidemment, je raisonne aussi en disant il n'y a pas eu de. En admettant qu'il n'y ait pas eu de fraude électorale, parce que, encore une fois, en Arizona, il y a 10 000 voix d'écart seulement. Donc, il peut y avoir eu quelques magouilles. Il y a des types qui disent qu'ils ont voté 62 fois. Parce que si, pareil, si vous n'avez pas à présenter votre carte d'identité, vous pouvez aller dans un bureau de vote, puis à celui d'à côté. Ça fera peut-être un petit peu cher la journée en essence, mais vous pouvez le faire. faire si vous êtes très militant. Donc, à chaque fois, en Arizona, on observe que Trump fait à peu près 2 à 3 points de mieux que ce que les sondages donnent à un mois de l'élection. Dans le Nevada, en revanche, c'est un peu moins intéressant. Les sondages, en général, sont un peu plus proches des résultats finaux. C'était à peu près le cas en 2020, c'était à peu près le cas en 2016 aussi. Clinton avait même eu une meilleure marge que prévu, et c'était le seul état dans lequel c'était le cas. En revanche, derrière, vous allez avoir, par exemple, le Wisconsin. Alors, le Wisconsin, c'est intéressant. Aujourd'hui, le Wisconsin, il est donné à 0,8% de marge, c'est-à-dire quasiment rien, à Kamala Harris. En 2020, il était donné à 5,5% de marge en faveur de Biden et à 5,7% pour Clinton en 2016. Donc malgré une grosse marge annoncée quand même en faveur des démocrates en 2020, la marge de Biden, elle était passée de 5,5% à 0,6%, donc pour un écart total de 20 000 voix. Donc on passe vraiment d'une grosse marge initialement, 5,5% à 0,6%. En 2016, on était passé d'une marge annoncée de 5,7 en faveur de Clinton à 0,8 en faveur de Trump. Il avait remporté l'État. Donc là, on a une grosse différence sur un mois, passé de 5,7 à moins 0,8. C'est vraiment beaucoup.
C'est probablement que les gens mentent. Quand ils sont en particulier les troisièmes, ceux qui sont, ils disent moi je ne sais pas pour qui je vais voter, ou je vais voter pour le candidat convenable, c'est-à-dire le démocrate. Et puis quand ils arrivent dans la boîte, et c'est un peu ça s'est passé pendant longtemps avec le Front National et le Rassemblement National en France. Les gens,
oui tout à fait. Il y avait le fameux vote caché.
Parce que les gens se disaient oh là là, moi je vais pas dire que je vote, mais
oui effectivement on observe ça avec Trump. C'était le cas en 2016, c'était le cas en 2020 aussi. C'est ce que je trouve intéressant, c'est que en 2016, on aurait pu se dire peut-être les instituts de sondage ne mesuraient pas assez bien l'effet Trump, ils auraient dû se corriger en 4 ans. Et ils ont quand même galéré à le faire. C'est-à-dire qu'il y a encore des énormes écarts entre les sondages de 2020 et les résultats.
Ça allait toujours dans le même sens.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que historiquement, on a un biais plutôt en faveur du candidat sortant, mais là, on a aussi un énorme biais en faveur de Trump. C'est vraiment ce que je souhaite vous montrer, état par état. Donc, pareil, dans le Michigan, aujourd'hui, Harris, elle est donnée gagnante avec 0,7%. Donc, pareil, c'est rien. En 2020, c'était Biden qui était donné gagnant avec 6,2%, sachant que le jour du scrutin, ça a été réduit de moitié. Il a gagné avec 2,8% de marge. Et en 2016, c'était Clinton qui était donné gagnante avec 6,8%. Et le jour du scrutin, c'est Trump qui l'a emporté avec 0,23% de marge. Alors 0,23, c'est vraiment rien. Sauf que quand vous passez de 6,8 à 0,23, ça fait une différence de 7%, ce qui encore une fois sur un mois.
En termes de sondage, c'est monstrueux parce que, en principe, ces sondages, s'ils sont faits statistiquement de façon correcte, ils ont une erreur moyenne d'estimation d'à peu près 1,5%, c'est-à-dire que c'est plus ou moins 1,5%. Donc, si on vous dit vous êtes à 7, ça veut dire que l'État est à vous. Ouais. Puis en réalité, non, il y a eu une chute de 7 points. Donc, c'était 3 fois ce à quoi on s'attendait. Ce qui, en termes statistiques, veut dire qu'on était dans les 0,1% des cas, quoi. C'était, donc, voir quelqu'un gagner 4 ou 5 points entre le moment du vote et le moment du sondage, ça veut dire que, il y a un loup dans les sondages, quoi.
Ouais, et encore une fois, je prends les sondages agrégés, c'est-à-dire que je prends pas les sondages les plus fantaisistes qui donnaient vraiment les scores les plus élevés en faveur des démocrates pour vous dire, regardez, il y a une grosse différence entre les sondages pro-démocrates et la réalité. Mais
il faut se souvenir que Time Magazine avait préparé sa première page au moment de Clinton, Clinton, avec Madame Clinton élue, quoi.
Tout le monde pensait, enfin, quasiment tout le monde pensait que Clinton allait être élue, effectivement. Pareil derrière en Pennsylvanie, parce que la Pennsylvanie, c'est l'état le plus important. Aujourd'hui, les sondages disent que c'est plutôt un tie, une égalité parfaite. En 2020, c'était Biden qui était donné gagnant avec 7,1% de marge. Et au final, il a gagné en 2020, mais avec 1,16% de marge, soit 6% de moins qu'annoncé. Encore une fois, c'est énorme. Vous voyez que c'est souvent les mêmes chiffres, hein, 5, 6, 7% de différence, plutôt en faveur de Trump d'ailleurs. Et en 2016, Clinton était donné gagnant présente avec 7,5%, et le jour du scrutin, c'est Trump qui a gagné avec 0,7% de marge. Donc encore une fois, c'est pas beaucoup, mais la différence entre les sondages est absolument énorme. Donc là aussi, il y a des raisons de penser qu'en Pennsylvanie, bah si les sondages donnent les deux à égalité, c'est plutôt bon pour Trump. C'est le genre de, en plus de ça,
il faut encore un mois de l'élection, donc ils ont le temps de corriger.
Tout à fait, et il faut rappeler spécifiquement pour la Pennsylvanie, c'est là que Trump s'est fait tirer dessus.
Oui.
C'est là qu'il est revenu le week-end dernier pour faire un meeting. D'ailleurs, c'était absolument
avec Musk.
D'ailleurs, c'était absolument légendaire. Il est arrivé sur l'estrade et il a remis le graphique sur l'immigration illégale qu'il était en train de regarder au moment où il s'est fait tirer dessus. Et donc, il met le graphique, regarde tout le monde et il dit "So as I was saying." C'est absolument légendaire, quoi.
J'ai été interrompu,
voilà, par un événement extérieur indépendant de ma volonté. On reprend le meeting. C'était à l'exact endroit où il s'est fait tirer dessus. Et d'ailleurs, il va continuer de faire des meetings en Pennsylvanie pendant la semaine parce que il a très bien compris que c'était la grosse clé de l'élection. Et donc là, je vous avais dit, en 2020, il y a eu une différence de 6% entre les sondages et la réalité. Et en 2016, c'est encore plus puisque c'était 7,5% pour Clinton. Et au final, Trump a gagné avec 0,7% de marge.
Et il faut se souvenir que c'était à l'époque que Madame Clinton avait dit qu'il y avait tous ces gens qui votaient pour Trump,
ouais,
qui étaient des déplorables, des deplorables, c'est-à-dire vraiment des crétins, et que donc elle s'intéressait pas aux crétins, qu'elle allait pas faire campagne chez les crétins. Et ça avait fait un effet profond sur l'électorat de crétins, qui avaient tous du coup décidé de voter pour Trump.
Ouais. Bah oui, mais en même temps...
Enfin, je pense que les gens pour des imbéciles. Hein,
c'est... Oui. Surtout sur un état aussi important que la Pennsylvanie. Enfin, bon. c'est évidemment des gens... pour qui Trump parle beaucoup à ces gens-là parce que toute sa volonté de réindustrialiser l'Amérique, de renvoyer le pouvoir vers la base, de remettre des usines, etc.
Le vrai problème, le truc de Clinton, de Trump, c'est qu'il n'arrête pas de dire, écoutez, on est gouverné par des gars à Washington qui ont été achetés. Et c'est le cas par l'industrie pharmaceutique, par l'industrie, c'est ce que dit Kennedy aussi, par l'industrie de l'armement, etc. Et ils prennent des mesures qui n'ont rien à voir avec votre intérêt, donc on va dégonfler l'état de ce que disait Milton Friedman, c'est si vous vivez mal, je sais pas où, dans le Colorado, c'est parce qu'ils vivent trop bien à Washington. Et ça, je crois que tous les Américains en sont convaincus. Donc vous dites, si vous voulez vivre bien, il faut peut-être que l'immobilier baisse à Washington.
Oui, effectivement. Et bon, derrière il y a la Caroline du Nord. Alors la Caroline du Nord, bon, il y a de fortes chances que Trump la gagne. Pour
Caroline
certains,
du Nord, c'est aussi là où vivent beaucoup de gens à Washington, justement, c'est ça.
Et bon, pour certains, la Caroline du Nord, c'est même pas un swing state, hein, tellement Trump y est favori. Même s'il est donné que avec 0,6% d'avance dans les sondages, pareil, historiquement, il y gagne pas mal de points le jour du scrutin. Donc là, il a même pas besoin de gagner
mais
des points.
Mais en fait, quand vous regardez votre carte qui est intéressante, vous regardez, vous voyez que les États qu'a Madame Harris, c'est des très gros États qui ont énormément de voix. Par exemple, la Californie qui fait 53 voix, 54 voix, c'est énorme. L'État de New York qui en fait 26. Donc, quelque part, on peut dire que Harris est... en tête dans tous les États qui sont, on peut dire, gérés par les démocrates. Et c'est là où il y a les principales prestations sociales, etc. C'est d'ailleurs la population file de ces États pour aller vers les autres. Et tout le monde quitte la Californie pour aller au Texas en ce moment, par exemple.
Oui, il y en a beaucoup.
Et Trump est largement majoritaire dans les États où il y a peu de monde.
Oui.
C'est-à-dire que c'est vraiment la lutte des villes contre les campagnes.
Ouais, et on observe le même phénomène à l'intérieur même des États.
Oui, oui.
Par exemple, là, je voulais parler de la Géorgie. À la fin, la Géorgie aussi, c'est un État assez important.
C'est là qu'il y a Atlanta.
Il y a 16 grands électeurs, c'est là qu'il y a Atlanta. Pourquoi c'est un État important? C'est parce que c'est devenu un peu un swing state, alors qu'on pouvait ne pas s'y attendre. Historiquement, c'est un État vraiment très, très républicain, quand même.
Mais pas Atlanta.
Mais pas Atlanta, effectivement. Il y a plusieurs métropoles qui sont assez bleues, plusieurs agglomérations. Il y a Atlanta, il y a Augusta, Savannah et Columbus. Et c'est un État qui s'urbanise pas mal. Et donc, plus vous éloignez justement de ces quatre villes, plus vous êtes dans des coins où ça vote à 80-90% pour Trump. Il n'y a vraiment pas de débat. Mais la taille justement que prennent ces énormes villes peut faire basculer le vote en faveur des démocrates, et ça a été le cas justement aux dernières élections, alors avec une marge extrêmement faible
là aussi très discutée, la
Géorgie c'est quand même aussi très discuté, effectivement la Géorgie c'est énormément d'habitants, mais la différence de vote en 2020 c'était 12 000 voix en faveur de Biden, si on en croit évidemment les chiffres officiels. Et alors aujourd'hui Trump est quand même donné gagnant dans cet état, hein, 1,5% de marge en sa faveur selon les sondages agrégés. Pareil, je regarde sur Polymarket, 64% des gens pensent que Trump va gagner l'état, donc il est quand même assez largement favori là-dedans. Mais voilà, il y a toujours un doute parce que c'est un état qui quand même compte de plus en plus de minorités. À la fin des années 80, 70% des habitants de la Géorgie étaient des blancs non hispaniques, contre 51% aujourd'hui. C'est un état qui a gagné 1 million d'habitants depuis 10 ans, et puis encore une fois, voilà, ça s'urbanise, les villes sont de plus en plus grosses.
Alors si vous voulez rigoler, vous voyez la carte que vous verrez sur votre écran là. Ouais. Vous partez de la New Orleans, vous savez, de la New Orleans qui est là-bas, hein,
ouais.
Vous remontez vers tout le Saint-Laurent, vers le Canada comme ça,
ouais.
Et vous avez tout ce qui était la partie française.
Ouais.
C'est-à-dire tout ce qui était la partie française, ouais, ça vote Trump.
La Louisiane historique, ouais.
La Louisiane historique, ça remonte comme ça. Ça vote Trump dès demain. Et puis, vous avez les Quakers et tout à droite.
Ouais.
Et puis les Bobos à gauche qui votent tous.
Ouais.
Donc on peut dire c'est la partie historique française, celle que Napoléon a vendue, contre la partie contre les colonies de départ.
Ouais, ouais, il y a un peu de ça.
Ouais. Et puis les fadas.
Il y a un peu de ça, ouais. Alors effectivement, toute la partie de la Nouvelle-Angleterre, c'est plutôt démocrate.
Ils sont tous démocrates.
Et voilà. Et la partie française, effectivement, est plutôt républicaine.
Plus
c'est vrai, j'avais pas fait cette observation.
Vous remontez comme ça, vous retrouvez toute la partie française. Quoi. D'ailleurs, quand vous allez, par exemple, dans le Minnesota, etc., c'est Marquette. Alors, Marquette, c'était un des explorateurs français qui avait créé Minneapolis, quoi, ouais, c'était. Donc, ouais, tout ça, c'est rigolo parce qu'on voit bien toute cette immense arc, c'était.
C'est intéressant. Et alors, encore toujours sur la Géorgie, pareil, parce qu'on parlait de des législations pour aller voter, parce que c'est quand même une clé de cette élection, parce qu'il y a eu tellement de. Comment dire, même
le Covid a beaucoup aidé parce que les votes par correspondance, par exemple, Trump l'avait largement emporté par les votes physiques.
Ouais, oui.
Mais
oui.
Quand on a mis les votes par correspondance, il a perdu.
Ouais, tout à fait.
C'est-à-dire que comme disait Pompidou, quand même le vote correspondance, c'est quand même la meilleure façon de frauder, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Et
qu'il avait interdit d'ailleurs.
Ouais, non, mais c'est normal. Même en admettant que tous ces votes par correspondance sont vrais, ça ne favorise pas la confiance dans la démocratie. Évidemment, on peut toujours se dire qu'il y a eu des bidouillages.
Mais en plus, si vous voulez, le Covid avait forcé le vote par correspondance parce que les gens voulaient pas aller faire la queue, ils allaient attraper la maladie, ils allaient mourir.
Ouais, ouais.
Et donc, y a des gens qui ont dit que c'était arrivé juste à point pour que Trump soit battu, le Covid.
Ouais, donc il y a déjà une bataille qui est engagée en amont, c'est justement toutes ces règles électorales pour savoir comment on va voter. Et donc justement en Géorgie, il y avait eu pas mal de polémiques sur ce qui s'était passé le jour du vote. Et alors depuis, les règles ont un peu évolué. Il y a eu une loi qui a été votée en Géorgie, la loi SB02. Donc la loi SB02, c'est contrôle strict des pièces d'identité, interdiction de donner aux citoyens de l'eau, de la nourriture aussi à moins de 8 mètres de la queue devant les bureaux de vote, sachant que souvent, en plus de ça, les queues les plus longues, c'est souvent dans les quartiers suburbains assez peuplés de minorités. La loi prévoit aussi une hotline gratuite pour dénoncer les fraudes et les irrégularités, ce qui fait que les résultats de l'État seront sans doute un peu tardifs le jour du vote, parce que s'il y a pas mal d'appels, forcément ça retardera le call
alors
définitif.
Que toutes ces lois ont été complètement interdites dans l'Ouest, c'est-à-dire aussi bien dans l'Oregon que dans la Californie.
Ouais.
Donc tout ça, si vous voulez, on peut penser que il y a quand même des gens dans le Parti démocrate qui trouvent que c'est plus facile de gagner des élections si on fait ce qu'il faut pour ça, quoi.
Mmh. Ouais. Oui, c'est sûr. pour eux, je trouve que c'est assez révélateur, se dire qu'il ne faut absolument pas regarder les pièces d'identité. Enfin, moi, je me méfierais quand même d'un parti politique qui serait autant à cheval sur ce point-là. Je me dirais, bah, évidemment, il faut vérifier.
Alors, il faut expliquer ça historiquement, c'est que il y avait des lois, les Jim Crow Law, qui étaient dans le sud des États-Unis après la guerre de sécession et tout, où les démocrates à l'époque déjà, puisque c'était les démocrates qui contrôlaient tout le sud des États-Unis, avaient fait passer des lois pour que le type qui ne savait, par exemple, pas très bien lire ou écrire, ou qui ne pouvait pas prouver son identité, ne pouvait pas voter. Et il se trouve que c'était souvent des Noirs. Mmh. Alors, donc, quand vous faites des contrôles importants sur les gens qui votent. Maintenant, aujourd'hui, les démocrates disent « Vous voulez faire repasser les lois Jim Crow
ouais. ?»
Mais la réalité, c'est que c'était déjà les démocrates qui faisaient ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que le parti républicain, c'est celui qui était contre l'esclavage. Hein.
Ouais.
Et les démocrates, ils étaient tous dans le sud. Et donc...
Comme
Candice Owen dit que le but des démocrates, c'est toujours de maintenir les Noirs dans la plantation. C'est-à-dire, on les arrose et comme ça, ils font ce qu'on leur dit, quoi.
Oui, il y a un peu ça, ouais, tout à fait. Ouais.
Donc c'est, je vous explique un petit peu cette histoire des lois anciennes, mais donc quelqu'un veut contrôler les élections, les démocrates disent, ça y est, vous voulez empêcher les Noirs de voter, alors que c'était eux, les démocrates, qui les empêchaient de voter.
Ouais.
C'est quand même rigolo, quoi.
Ouais.
Ils rappellent leurs crimes, quoi.
Oui. Et puis bon, comparer des tests comme ça avec juste demander une carte d'identité. Bon,
mais vous pouvez pas louer une voiture,
les actes civils les plus anodins, il faut avoir sa carte d'identité.
Vous pouvez pas prendre l'avion si vous montrez pas une pièce d'identité. Quoi.
Ouais.
Et puis tout le monde a un permis de conduire aux États-Unis.
Ouais. Oui, c'est ça. Vous faites contrôler sur la route, vous devez montrer une pièce d'identité.
Bien sûr.
Ça peut arriver.
Donc je vois pas exactement où est le problème. De demander aux gens de justifier qu'ils sont inscrits sur les listes. Et en Californie, ils vérifient même pas si le gars qui est inscrit sur la liste est citoyen.
Ouais. Ouais. Bon, encore, on a envie de se dire, en Californie, on sait déjà quel va être le résultat, donc c'est évidemment pas correct, mais à la limite, ça changera rien. Mais en revanche, justement, sur tous ces états clés, sur la Géorgie, sur la Pennsylvanie, sur tous ces états-là.
Plus on contrôle ces
états-là.
Et là, il y a aussi autre chose qu'on me dit tout le temps, c'est les États-Unis, c'est pas une démocratie parce que le type qui a eu le plus de voix,
ouais.
Il n'est pas toujours élu.
Ouais.
Mais oui, je leur réponds une seconde, c'est attendez une seconde, vous avez ces grands états, New York, la Californie, l'Oregon, etc., qui ont plein de voix.
Ouais.
Si vous êtes un républicain, vous pouvez aller voter pour votre local, là, votre sénateur ou je sais pas quoi, mais voter pour le, ça sert à rien de voter pour le président, puisque de toute façon, ce sera démocrate qui gagnera.
Ouais.
Donc, si on passait à un système où c'était celui qui a le plus de voix qui est élu, je suis bien certain que les républicains qui vont pas voter parce que c'est pas la peine, ça sert à rien, c'est comme de voter pour le Rassemblement National dans le 16e, si vous voulez.
Encore dans le 16e, c'est déjà plus utile que dans le 12e.
Donc vous avez tout de suite 2% des voix qui voteront, parce que c'est pas la peine d'aller voter, quoi.
Ouais. Si
vous pensez... Donc là, vous avez tout le Sud, tout l'Ouest et tout l'Est, où les Républicains vont pas voter, ça sert à rien.
Ouais.
Mais ils voteraient à ce moment-là. Et donc, c'est, encore une fois, prendre une situation donnée et en tirer une conclusion qui est infirmé par la façon dont est organisé.
Mmh.
Donc,
oui.
Les pères fondateurs des États-Unis ont décidé que pour éviter que, à l'époque aussi que ça paraisse, que la Virginie, qui était l'État le plus peuplé, ne domine complètement les États-Unis, ils ont fait cette histoire de il y aura tant de voix par la population, etc. Donc ils ont fait une espèce de pour maintenir les privilèges des minorités.
Ouais.
Mais moi je trouve ça bien.
Oui, bah en même temps c'est pas juste, enfin c'est les États-Unis d'Amérique.
C'est les États-Unis. Voilà, chacun des États doit être représenté. Et si dans le fond le gouvernement des États-Unis était toujours présidé et par la côte ouest et par la côte est et que les autres ils aient jamais un président élu, ben ouais. À ce moment-là le Texas ferait sécession.
Ouais.
Si vous voulez éviter la sécession, la seule façon, c'est que...
Oui, il y aurait peut-être une sécession de toute la Nouvelle-France.
Ce qu'on devrait faire, c'est financer, avec toutes les ressources monstrueuses que la France dispose vraiment, le mouvement de retour à la France de toute la zone de toute l'ancienne Louisiane française qui remontait jusqu'à la frontière canadienne. Et puis là, on aurait un bel allié, là.
Oui, tout à fait. Ce serait intéressant.
Oui, mais avec ce qui passe en France, ils sont pas... On aurait plus de facilité à fusionner avec les deux autres, nous, là.
Oui, oui, effectivement. C'est sûr que l'inclination politique de la France n'est pas tellement favorable.
Si vous parlez aux Texans de la politique française en ce moment, ils sont un peu mitigés.
Ouais, et puis même en parlant, comment dire, même le Rassemblement national trouve Trump un peu extrémiste.
Le Rassemblement national, il me fait beaucoup de peine parce que maintenant, après ce que je comprends, il est pour l'Europe, il est pour l'euro et il est pour l'OTAN. Et j'ai du mal à comprendre exactement
où est-ce qu'on va.
Non, mais où ils vont eux ?
Oui, oui.
Parce que si le Rassemblement national ne se bat pas pour la souveraineté, j'ai des doutes.
Ouais.
Pourquoi est-il national ? On devrait appeler ça le Rassemblement des corneaux. Comme ça, tout le monde serait d'accord. C'est ce que pensent les autres. Hein. Bon, oui, c'est pas oui, moi qui pense ça. J'aime bien les gens du Rassemblement national. Non, mais je trouve que je comprends pas la politique du Rassemblement national aujourd'hui.
Non, moi non plus. Je suis pas dans les petits papiers, malheureusement. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre la stratégie. Ouais.
La stratégie, c'est de remplacer le RPR de façon à être certain d'être liquidé.
Mmh. Oui, encore être un peu plus à gauche que le RPR des années 80, déjà. Mmh. Parce que je pense que quelqu'un, si on remettait Pasqua dans ses plus belles années aujourd'hui.
Il irait pas au Rassemblement National ?
Je pense qu'il se dirait que le Rassemblement National, c'est un peu trop sympa, quoi, un peu trop doux.
Oui.
Donc oui, effectivement, nous avons ce problème-là en France, qu'ils ont moins aussi grâce à cette politique, ce clivage justement entre ces deux grands partis. Mmh. On peut, aux États-Unis, c'est ce qu'a fait Trump, on peut prendre d'assaut le parti républicain et en faire à peu près ce qu'on veut.
Mais il a complètement transformé la psyché américaine, ouais. Parce que logiquement, le parti qui aurait dû être en bleu au centre, c'était le parti de la classe moyenne, travailleuse et tout, c'était les démocrates.
Ouais.
Et puis là-bas, il y avait les fadas, les républicains bien élevés et tout, qui étaient les hommes d'affaires. Bon. Et puis Trump, il a réussi à inverser la couleur de la carte, c'est-à-dire qu'il pose maintenant le Parti républicain comme le parti des petites gens.
Ouais.
Ce qui n'était pas du tout le cas quand j'avais 20 ans.
Ouais. Alors il suffit de regarder quels étaient les swing states, par exemple en 2008 dans les années 2000 ou 2008-2012. Et il y a des États qui sont devenus des États clés en 2016. Je pense l'Ohio, par exemple, c'était le cas.
Alors il est devenu maintenant l'Ohio, il est toujours rouge, quoi. Alors qu'autrefois, il passait de rouge à bleu.
Voilà, exactement. Aujourd'hui, c'est même plus un swing state. Et ou inversement, par exemple, avant la Floride était un swing state. Aujourd'hui, c'est un État rouge. On ne regarde même plus ce que va voter la Floride.
Mais le Texas,
aujourd'hui.
Même le Texas passait de temps en temps de l'un à l'autre.
Ouais.
Johnson, qui a été le président, il était texan.
Oui, effectivement.
C'était très curieux, quoi. Tandis qu'aujourd'hui, les Texans... Alors, ce qui se passe, il y a un drame. Les Texans sont très fâchés, d'ailleurs. J'en connais un certain nombre. S'il y a tous les corneaux qui filent de Californie parce qu'ils ont voté comme des cons et qui viennent de Texas et qui continuent à voter comme des cons. Ça énerve beaucoup les Texans. Ils disent, si vous venez chez nous, si ça vous fait rien, vous ne pourriez pas voter comme nous.
Je peux comprendre. C'est le Texas, aujourd'hui, c'est... dans l'identité de l'État d'être républicain. Alors pareil, encore une fois, il y a les grandes villes, il y a Houston, San Antonio.
C'est Austin. Austin est plutôt démocrate parce que c'est la grande ville universitaire.
Ouais. Mais voilà,
Austin, donc là où il y a des professeurs, il y a de la gauche, quoi.
Ouais. Voilà, exactement. De toute façon, là où il y a des grosses villes, en général, c'est là où c'est le plus démocrate. Mais effectivement, sur tout le reste de l'État, c'est trumpiste à mort. Il y a même pas de question, quoi. C'est une évidence.
Juste au-dessus, il y a l'Oklahoma, et là aussi, c'est bien l'Oklahoma.
Oui, l'Oklahoma, c'est bien.
C'est toujours rouge vif, ça.
Oui, effectivement.
Quoi qu'il se passe.
Et les démocrates essayent d'inverser ce processus, notamment par le biais de l'immigration. Et c'est ce qui énerve beaucoup les républicains.
Mais l'immigration, ceux qui reçoivent donnent le plus aux immigrés, c'est tous les États bleus.
Ouais,
donc, en fait, plus vous mettez d'immigration, plus ils vont dans les États bleus, parce que c'est là qu'il y a les subventions, et plus les États bleus font faillite.
Ouais.
Et donc c'est une victoire à la Pyrrhus.
Ouais, effectivement, mais les
mais enfin le pauvre Texas qui a une énorme frontière avec le Mexique, il en reçoit un paquet aussi.
Il en reçoit un paquet.
Mais là, je crois pas qu'il soit autorisé à voter.
Bah justement, c'est pour ça que c'est d'autant plus une question la question de vérifier l'identité, parce que quand vous avez plus 6 millions de personnes
l'élection s'est faite à 70 000 personnes la dernière fois.
Bah oui, évidemment, oui, voilà, quand je vous ai rappelé que en 2020, voilà, par exemple en Géorgie, il y a 12 000 voix d'écart entre entre Biden et Trump. Quand je vous dis que dans le Wisconsin, il y a eu un écart de 20 000 voix, c'était quoi aussi? C'était dans l'Arizona, il y a eu un écart de 10 000 voix. Vous voyez bien que c'est des États qui sont hyper importants.
Mais l'élection américaine la dernière fois, c'est faite à 70 000 voix.
Oui, voilà, c'est en additionnant
tout ça. Donc
si vous faites
voter 70 000 gars dans des endroits bien, ouais, vous pouvez changer le résultat de l'élection.
Vous mettez des bus pour les immigrés pour qu'ils aillent voter sans papier d'identité, c'est bon, c'est gagné.
Qui votent des bus et qui font 5 ou 6 bureaux de vote.
Ouais.
Dans la journée, tant qu'à faire.
Oui, bien sûr. Bah ouais, on peut faire le tour de l'État. On peut faire un state tour, bien sûr. On y va. Donc voilà, je voulais faire un tour d'horizon pour que vous soyez vraiment au courant de ce qui se passe. Dans...
Bien sûr. Il y a aussi autre chose, c'est que dans tous ces États du Sud là, qui peuvent être, il y a beaucoup de Mexicains, enfin de Latino-Américains qui sont arrivés légalement depuis des années et tout. Et croyez-le ou pas, mais ils sont assez fâchés de voir arriver les nouveaux Latino-Américains parce que ça fait baisser terriblement leur salaire.
Mmh, ouais.
Et donc, les Latino-Américains qui votaient à 80% démocrates sont en train d'arriver à 50. Donc, on voit bien que les Latino-Américains installés, qui sont arrivés légalement, la politique des démocrates, ça les stimule pas énormément.
Ouais, effectivement, faudrait qu'ils aient des indicateurs pour voir si c'est des Latinos qui sont arrivés il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, ou si c'est des.
En tout cas, je peux vous dire que tous ceux qui sont arrivés de Cuba, là, qui sont tous en Floride.
Ouais.
Il faut pas leur raconter des conneries sur les démocrates.
Ouais, c'est-à-dire que les latinos globalement votent plus démocrates que républicains.
Mais pas en Floride. Mais pas les Cubains.
Alors pas en Floride et c'est de moins en moins le cas. C'est-à-dire que Trump arrive quand même à limiter cet effet-là des immigrés qui votent automatiquement pour les démocrates. C'est un peu le cas même si les noirs votent très majoritairement pour les démocrates. Il semblerait que ce sera un peu moins le cas en 2024.
Il passera de 70% de noirs à 45% quelque chose comme ça, donc il a fait aussi, mais c'est aussi curieux que ça paraît, c'est les latinos et un peu les familles noires aussi sont très conservateurs du point de vue sociétal, c'est-à-dire la famille et tout ça. Bon, les noirs un peu moins, mais les latinos beaucoup, et très chrétiens, ils vont à la messe et tout. Et donc, ce qui se passe, c'est que tous les trucs des woke, de raconter des conneries dans les écoles et tout...
Oui, ça leur parle, ouais.
Ça, ils aiment pas du tout. Donc, c'est pour ça qu'ils vont vers Trump. Point de vue sociétal, c'est qu'ils aiment pas ce qu'on leur raconte.
En Floride, pour le coup, Ron DeSantis a fait un travail énorme, justement, pour se mettre les latinos dans la poche avec ce genre de trucs. Il a énormément lutté contre le wokisme à l'école.
Il y a les deux sénateurs de Floride, d'ailleurs, dont les parents étaient cubains. Ils sont arrivés de Cuba.
Ah, je savais pas.
C'est Rubio, je crois.
Ah oui, d'accord.
Rubio, ses parents étaient cubains. Ouais, il est arrivé les pieds nus, quoi.
Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que dans ces états-là, il y a ce phénomène, effectivement, des latinos, qui deviennent très américains et qui s'assimilent un peu à la culture. Alors, parfois, ça parle un petit peu latino à la maison, enfin, espagnol, mais.
Ça gêne pas, parce qu'ils continuent, c'est pas grave de parler deux langues, ça continue qu'il n'y ait qu'une seule langue officielle, quoi.
Oui,
pas en France, jusqu'à à peu près l'installation du service militaire par la Troisième République, tout le monde parlait le patois local. Mm. Et puis, on apprenait les Français à l'école. Ouais. D'ailleurs, ils étaient vachement bons. Quand ils passaient le certificat d'études, ils étaient vachement bien, les mecs. Ils savaient tous parler un français parfait. Et moi, je me souviens d'une partie de ma famille qui était dans le Béarn il y a longtemps. Les mères mettaient une raclée à leur fils ou à leur fille dès qu'elles les entendaient parler patois.
Mm-hmm.
Parce que c'était dire qu'ils allaient rester toujours bloqués à la campagne. La façon de monter, c'était de se mettre à parler le français et de passer des diplômes. C'était l'école républicaine, quoi. C'était. Et j'imagine que c'est la même chose aux États-Unis.
Oui, je pense dans certaines familles, quand même.
Les latino-américains, oui.
Ouais, pour les latinos, oui. C'est effectivement une démographie. Alors, les immigrés très récents votent plutôt, même très majoritairement démocrates. Mais ouais, les familles installées depuis plus longtemps penchent de plus en plus en faveur des républicains, en tout cas en faveur de Trump. Ça, c'est assez clair. C'est un truc qu'on peut observer. Donc voilà, je pense qu'on a fait un gros tour quand même sur ces élections américaines.
Oui.
4 semaines à peu près du scrutin.
Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que pour moi, aujourd'hui, c'est une élection extraordinairement importante. Pour une raison très simple, c'est que d'un côté, vous avez un candidat qui est présenté, qui est soutenu par tout ce qui se peut de grandes sociétés, etc. Et de l'autre côté, vous avez une espèce de fada, Trump, mais qui cette fois-ci s'est entouré de Kennedy, ouais, qui a vraiment des sujets importants sur la santé, les enfants, etc. De Musk, qui va nettoyer sur l'État américain, qui sera chargé d'enlever tous les gars qui servent à rien, quoi, qui sont payés à ne rien foutre et à emmerder les autres. Vous avez Tulsi Gabbard, si elle pouvait être nommée ministre de la Défense, ce serait le pied. Donc il est entouré, contrairement à ce qu'elle était la dernière fois, où il avait une série de crétins autour de lui qui étaient tous des va-t-en-guerre du style de Bolton et compagnie. Il est entouré d'une équipe qui fait envie, quoi.
Ouais. Bah la dernière fois, il était entouré des caciques du parti républicain. Et
quoi. C'est tous des néo-conservateurs. Ouais, c'est-à-dire qu'il fallait les casser la gueule.
Ouais.
Louis était à une conférence avec John Bolton, là le fou, là, qui avait été nommé par Trump son conseiller pour les affaires internationales. Là, donc c'était une folie. Et John Bolton avait parlé après lui, et John Bolton sortait et disait « il faut bomber l'Iran ». Donc le mec, il pensait qu'à bomber l'Iran, bomber... Donc c'était des grands mal. Alors que Trump, c'était pas tellement dans ses idées. Lui, il est pas tout à fait pour les guerres, quoi. Donc il les a tous virés. Le vice-président, c'était un...
Oui, j'allais dire McCain, Pence.
Pence, il était aussi... Il fallait faire la guerre à tout le monde. On n'avait pas livré assez d'armes à l'Ukraine, et donc il est arrivé avec un va-t-en-guerre poussé par ayant choisi des gens du complexe militaro-industriel,
ouais.
Et là, pas du tout. C'est-à-dire que toute une partie intelligente du Parti démocrate, qui devrait se dire, comme il y a la moitié de son équipe qui sont des anciens démocrates, et des noms, parce que Musk aussi était un démocrate. Donc je me dis, si les États-Unis, si Trump perd cette fois-ci, c'est que vraiment le verre est dans le fruit, et à ce moment-là, on est mal barré, les mecs.
Ouais. Oui. Et encore une fois, dans cette élection, il y a pour beaucoup de républicains un enjeu quasiment définitif.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils se disent, si Kamala Harris a encore le pays pendant 4 ans, peut-être que le pays ne pourra jamais revenir.
Ah non, l'État profond a pris tellement de positions qu'on ne pourra plus les virer.
Ouais, ouais.
Mais déjà, ils ont pris le contrôle de la justice. Le ministère de la Justice, on a vu ce qu'ils en ont fait.
Ouais.
Donc il faut retransformer, je vous raconte tout le monde.
Donc c'est, comment dire, c'est...
Il faut retransformer les États-Unis en une démocratie.
Oui.
Ce qu'elle n'est plus.
C'est-à-dire que c'est un enjeu, déjà, au-delà des programmes,
Il n'y a pas de programme, sauf de débarrasser de le.
C'est.
Des.
Il y a un enjeu démocratique, effectivement, parce que beaucoup de gens pensent que si Kamala Harris gagne, le pays sera peut-être condamné à être.
Et
démocrate.
Surtout, c'est pas elle qui gouvernera.
C'est peut-être, voilà.
Parce que la pauvre enfant.
Oui.
Elle a le QI d'un escargot, quoi.
Voilà. On pensait parfois que. Enfin, on aurait pu penser que pendant le mandat de Joe Biden, c'était Kamala qui était derrière, mais.
Il peut pas l'avoir d'ailleurs parce qu'il l'avait mis dans. Il la voyait jamais. Il y avait jamais de rencontre.
Et alors que si Trump gagne, il y aura toujours une possibilité derrière de revenir aux démocrates. Voilà, là
mais
aussi c'est un enjeu. Mais peut-être pas les mêmes.
Ouais, peut-être, parce que le Parti démocrate s'est fait capturer par une espèce de groupe qu'on connaît tous. Et la grande question, c'est si le Parti démocrate perd là, surtout s'il perd en plus les deux chambres, à ce moment-là, il va y avoir un sacré nettoyage dans le Parti démocrate.
C'est une possibilité.
Parce qu'ils ont, alors, pour parler clairement, on peut dire que les trotskistes ont pris le contrôle du Parti démocrate.
Ouais. Et donc voilà, je ne sais pas trop ce que...
Bon, je ne sais pas ce que ça va donner, mais plus. En tout cas, je peux vous dire que si jamais c'est les démocrates qui gagnent, ça va secouer.
Ouais, c'est sûr qu'on préférerait que ce soit le bon Donald. Donc voilà, on en reparlera, j'imagine, d'ici la fin du mois. Cette élection arrive à grands pas. Il y a quand même plusieurs sujets en ce moment. Israël, le budget et les élections américaines. Donc voilà, j'espère que vous avez bien tout compris ce que j'ai essayé de vous raconter. Et puis, je vous remercie, bien sûr, comme d'habitude, pour votre attention. Si vous êtes abonné à la page, tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Daily d'opinion. Merci.
Vous savez ce que disait Greenspan, qui était le banquier central, quand il donnait des explications sur sa politique monétaire. Il disait toujours, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé.
Voilà, j'espère quand même que vous avez compris, parce que j'espère m'être bien exprimé. Je suis pas un banquier central.
Ouais, ça me faisait poiler quand il disait ça.
Bon, merci beaucoup.